Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h sur notre radio et c'est l'heure de l'Instant Jeune, l'émission du réseau Information Jeunesse pour les jeunes. Je suis Laurence du Centre Information Jeunesse de Laval. En novembre, nous avons abordé la thématique santé-addiction, mais on a essentiellement parlé tabac et alcool. Là, on va aujourd'hui parler de toutes les autres formes d'addiction, avec ou sans substance. On va détailler avec nos invités. Colline de l'ANPA.
Bonjour.
Manuela Duxapa.
Bonjour.
Ainsi que de Lorenzo, qui est un joueur qui va nous partager un petit peu ses pratiques, témoigner un petit peu de son expérience à la fois jeux vidéo, jeux en ligne, etc. Bonsoir Lorenzo.
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Peut-être tout d'abord présenter vos structures respectives assez rapidement. Colline, l'ANPA, c'est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases en quoi consiste l'émission de l'ANPA?
Oui, alors l'ANPA, c'est une structure qui est nationale, donc qui travaille à la fois sur la prévention et aussi l'accompagnement, le soin, la prise en charge des addictions. Petite actualité, l'ANPA va changer de nom. On va s'appeler à partir de 2021 Association Addiction France. Donc, je profite de le dire à la radio.
J'avais l'intention de te poser la question parce que je l'avais mis sur le site.
D'accord. Alors nous, en Mayenne, notre particularité, c'est qu'on ne fait que de la prévention. Donc on travaille avec des structures où on les aide, on les accompagne à développer des projets de prévention. Et on travaille essentiellement en collectif, donc à la fois auprès des jeunes, aussi auprès des professionnels, en milieu festif, en entreprise. On forme les professionnels à l'addictologie. Donc, notre travail, c'est vraiment la prévention.
Ok, merci. Manuela, peux-tu nous présenter aussi succinctement l'émission du XAPA? Le XAPA, je rappelle, c'est le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.
Alors oui, c'est un centre du coup ambulatoire. On vient le temps d'un rendez-vous, d'une rencontre, donc avec des professionnels du soin, que ce soit des infirmiers, des médecins, des psychologues, des éducateurs. On a une mission à la fois d'accompagner au niveau de la santé, mais on a une mission de prévention, une mission de formation, une mission de consultation jeunes consommateurs, c'est-à-dire ça concerne aussi des jeunes qui n'auraient pas forcément d'addiction, mais qui se questionnent simplement sur où ils en sont, éventuellement si ils sont tentés par une consommation. Enfin, c'est vraiment du coup de pouvoir être en amont de la problématique de consommation.
Ok, merci. Voilà. Lorenzo, peut-être te présenter rapidement un petit peu.
Oui, je suis Lorenzo, du coup je suis un développeur marketing pour des jeux vidéo mobiles pour un gros éditeur français. Et donc, du coup, au jour le jour, je travaille afin de faire des publicités qui donnent envie aux joueurs, justement, de cliquer et de jouer à ces jeux gratuits sur mobile.
Toi, tu as les deux aspects, à la fois ta pratique personnelle de jeu et ta casquette de professionnel dans le domaine.
Oui, voilà. Ouais.
Peut-être avant de commencer, peut-on donner une petite définition de l'addiction? Je ne sais pas, Manuela ou Colline? Comment on définit une addiction?
On la définit par la perte de liberté de s'abstenir. En gros, une envie irrépressible d'y aller, même si on sait que d'y aller, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Voilà, pour être très succinct.
Ok, donc on va aborder dans la première partie, effectivement, plutôt les addictions sans substance. Donc, on va parler de tout ce qui est jeu et numérique. Donc, les addictions au jeu. En 2018, l'OMS a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celle-ci prenne le pas sur beaucoup d'autres centres d'intérêt et d'activités de la vie quotidienne. Certaines personnes pensent plus à jouer et en oublient même de manger ou de sortir. Enfin, ça peut engendrer quand même des problèmes d'isolement social, voire même de dépression. Est-ce que comment on peut, pour les auditeurs qui nous qui sont à l'antenne, comment on peut prendre conscience on joue trop, ou à quel moment il faut commencer à s'inquiéter et à qui s'adresser?
Alors, je dirais que on commence à jouer trop quand on sent que c'est quelque chose qui devient un peu un besoin. Alors, à partir de quand c'est un besoin? Bah, c'est à partir du moment où peut-être on a d'autres choses qui pourraient être prioritaires à faire et qu'en fait on va les mettre de côté. Et puis petit à petit, on voit bien que ça grignote beaucoup de temps sur nos loisirs, nos vies. On arrête certaines choses qu'on aimait bien pour encore retourner vers les écrans. Voilà. Après, sans forcément qu'il y ait toujours de conséquences, en tout cas comportementales. Et puis, voilà, c'est vraiment cette idée qu'on perd de la liberté sur d'autres actions et ça se met en place de façon un peu insinueuse. Et puis, il y en a qui vont être beaucoup sur les écrans sans forcément que ce soit non plus un problème parce que, ils sont pas dans une recherche de satisfaction, de besoin, dans une recherche de bien-être, mais plutôt dans quelque chose qui va être raisonné, entre guillemets, quoi. Je sais pas si ça répond totalement à la question, mais…
Oui, et donc, par exemple, je sais pas, Lorenzo, toi, ta pratique, c'est plus les jeux vidéo, les jeux en ligne, combien de temps, à titre perso, hein, combien de temps tu y consacres?
J'ai pas trop de données sur combien de temps je passe sur les jeux vidéo. Je jouais plus quand j'étais plus enfant, ado. À ce moment-là, je sais pas, je pouvais jouer, j'en sais rien moi, un week-end, s'il n'y a rien à faire, je pouvais passer, je sais pas, 3 heures, 4 heures, une après-midi sur un jeu vidéo. Mais j'ai jamais vraiment joué aux jeux en ligne. J'ai pas eu le Je sais pas comment dire, quand j'étais plus jeune, bah j'ai 27 ans, donc quand j'étais petit, j'avais pas forcément un ordinateur qui permettait de jouer à des jeux en ligne. Voilà, il n'y avait pas autant de jeux en ligne et ils étaient payants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des jeux qui sont gratuits, a priori gratuits, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté un CD ou quoi que ce soit. Cependant, les joueurs standards vont dépenser entre 500 et 1000 euros au final sur des choses qui ne sont pas des éléments cosmétiques dans le jeu, qui vont pas apporter, mais qui peuvent du coup créer une dépendance, et en plus d'une dépendance, des dépenses financières un peu exubérantes, quoi. Mais du coup, je sais qu'aujourd'hui, je peux. Il y a des outils pour les consoles, pour les parents. Par exemple, je pense à la Switch de Nintendo. Il y a une application contrôle parental, et on peut bloquer, on peut dire, voilà, je veux que mon enfant, il joue 1 heure, il joue 2 heures par jour, ou je sais pas, 2 heures par semaine, en fonction de l'éducation que je lui ai apportée. Mais je sais que j'ai jamais eu un comportement quand j'étais. Si j'ai pu avoir, on peut dire, j'ai pas eu d'addiction parce que ça a pas fait de côté négatif à ma vie sociale ou à ma santé. Mais j'ai pu beaucoup jouer, comme passionnément. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus mon téléphone portable en tant qu'utilisateur lambda que n'importe quel joueur joue à un jeu vidéo, quoi. Je sais que cette utilisation-là qui est, enfin, est bien plus importante que n'importe quel jeu. Enfin, voilà.
Toi, avec ton recul, tu penses que maintenant, les jeux en ligne peuvent rendre plus dépendants que les jeux vidéo?
En fait, les jeux. Bah, les deux sont des jeux vidéo, c'est juste que, enfin, je sais pas, moi j'ai plutôt préféré des jeux qui sont justement, enfin, comme vous dites, pas en ligne, hors ligne, où on peut faire pause, sauvegarder, arrêter, passer à autre chose. On peut arrêter un jeu en ligne, le truc c'est qu'on est, enfin, moi j'ai pas trop joué à ces jeux-là parce que je savais que je serais vite dépendant. Enfin, je voyais ça d'un œil assez négatif. Parce que je voyais mon rapport aux jeux vidéo déjà standard. Je sais pas, quand j'étais petit, je jouais, je sais pas, à Pokémon sur les Game Boy. Et on peut voir juste un compteur d'heures. Je me rappelle que sur une version laquelle je jouais, je sais plus, début du collège, j'avais passé, je sais pas, 180 heures. Pour moi, ça me paraissait énorme. Et j'ai discuté avec des gens quand j'étais fin collège qui jouaient à un jeu comme Guild Wars, par exemple, qui est un jeu en ligne. Et il y avait le petit frère d'un ami, donc ce petit frère devait avoir 14 ans, avait passé 3000 heures sur Guild Wars. 3000 heures, c'est beaucoup. Et du coup, ça semblait petit, quoi. Tout mon temps passé, je sais pas, pendant des semaines et des mois sur Pokémon, même pas arrivé à 200 heures, et quelqu'un qui va passer, je sais pas moi, 6 heures par nuit, toutes les nuits, pendant 2 ans sur un jeu, et qui va, du coup, en fait, être récompensé. Le truc, c'est que un jeu en ligne, ça s'arrête pas vraiment. On peut pas vraiment arriver au bout. Il y a une petite histoire. Cependant, il y a une question de niveau et on peut refaire le jeu un peu à l'infini et ça va s'augmenter et en fait on a une récompense. Je pense que le truc de la récompense est important. Il y a des biais psychologiques qui sont utilisés par les développeurs de jeux pour qu'on ait envie de jouer, qu'on soit récompensé et qu'on soit mis avec un groupe qui est toujours un peu au-dessus de nous, ce qui fait que du coup on a envie d'être au-dessus et donc ayant connaissance de ces techniques utilisées et de ces qui sont pas vraiment aimées par les joueurs classiques, on va dire. Du coup, ces techniques-là sont vraiment néfastes et sont utilisées un peu comme les casinos utilisent des techniques pour que les gens soient addicts au jeu, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu des législations en Europe, mais ça a tardé quand même. Il y a eu des législations parce que les jeux s'étaient transformés quasiment en casinos virtuels, quoi.
L'intérêt des jeux en ligne, c'est qu'on peut jouer avec effectivement des gens de partout, mais
Ouais, c'est ça. Ça peut être bien. Par exemple, en ce moment, je sais pas. Il y a le confinement. Les gens peuvent pas forcément faire leur activité, leur sport standard. Ils peuvent pas aller au cinéma, ils peuvent pas aller au théâtre. Ils peuvent. Je sais pas. Il y a pas longtemps, on est toujours là-dedans où faut signer un papier pour sortir, et faire une activité essentielle. Et du coup, le jeu vidéo, qu'il soit en ligne, pas en ligne, est un échappatoire pour une réalité qui est pas forcément idéale. Un peu comme pourrait l'être, je sais pas, une série Netflix ou un bon livre. Mais c'est juste que le dernier média, le nouveau média est toujours celui duquel on a pas assez de recherche, on n'a pas assez de recul, et du coup on se dit que c'est toujours celui-là qui est responsable des maux de la société. Mais c'était le même avec, je sais pas, le jazz dans les années 30, c'était responsable de la folie et tout ça, et puis le cinéma, et puis la télé, et puis maintenant c'est les jeux vidéo. Et maintenant, on est passé, on parle plus autant des jeux vidéo comme un problème, on parle des mobiles et des réseaux sociaux et tout ça. Et ça évolue, mais je pense que le jeu vidéo en soi, ça va, c'est juste c'est les pratiques des éditeurs de jeux qui vont avoir envie de faire un profit, qui vont utiliser des techniques qui vont générer une addiction ou un comportement anormal de la part de joueurs, principalement d'enfants quand même, parce qu'il faut se dire que les jeux vidéo, c'est quand même un marché qui est... Ok, les enfants des années 90 ont grandi, c'est des adultes maintenant, mais les enfants des années 2000 et des années 2010 sont nés avec des jeux qui sont très différents des jeux que moi j'ai connus quand j'étais petit, où j'achète un jeu et je sais pas, il n'y a pas des pubs dans mon jeu, et je peux pas dépenser de l'argent dans le jeu, par exemple. Alors que un enfant, je sais pas, j'ai vu un article l'autre jour, un enfant qui a dépensé 16 000 dollars sur son iPad. Dans des achats, voilà. Et la famille peut rien faire parce que, ben, d'un autre côté, c'est la famille qui a laissé un iPad à la base à l'enfant, quoi. C'est juste qu'il faut un usage modéré, quoi. Je pense que c'est ça, en fait. C'est une éducation à l'écran. C'est juste que le jeu vidéo n'est pas une réponse. Je sais pas quoi faire avec mon enfant. Je vais lui donner une nouvelle console et puis il a l'air heureux. Il faut l'accompagner, quoi.
voilà, ça pose la question de l'éducation à la fois aux médias et l'accompagnement pour les enfants, notamment quand ils sont petits. Manuela ou Colline, dans vos structures, est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes qui viennent vous voir par rapport à cette problématique? Est-ce que c'est un cliché de dire que ce sont plus les garçons quand même qui sont un peu plus accros ou qui passent plus de temps, en tous les cas, sur les jeux vidéo?
Alors moi, je rencontre pas de personnes qui sont forcément en difficulté. En tout cas, c'est pas dans ce cadre-là qu'on les rencontre. Je pense que souvent dans les pratiques, c'est les garçons et les filles jouent pas au même jeu. Les filles sont peut-être plus sur les réseaux sociaux que les garçons, qui jouent plus aux jeux vidéo. Donc voilà, les risques sont un petit peu différents, mais je ne sais pas s'ils jouent plus les garçons que les filles. Je n'ai pas trop cette vision-là. Je voulais revenir aussi sur le fait d'essayer d'évaluer peut-être sa consommation Il existe des auto-questionnaires qui peuvent être assez faciles à trouver, notamment sur Internet, pour faire un petit peu le point sur sa gestion peut-être des réseaux sociaux ou du jeu vidéo. Ça peut être un moyen un peu plus objectif peut-être pour savoir si on est là dans une consommation abusive ou pas. Et je rejoins ce que disait Lorenzo, c'est vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations de la part des professionnels et des parents sur ces questions-là. Je pense que c'est avant tout aussi des actions vers les parents qu'il faut mener, parce que les jeunes, comme le disait Lorenzo, maintenant font partie de cette génération où ils ont été élevés, ils ont grandi avec des jeux, notamment en ligne, avec des portables, des smartphones. On n'avait pas ça, nous, à notre époque. Ça avance très vite, donc il y a un changement de génération, et il y a des parents qui ne peuvent pas mesurer parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement les outils, en fait. Donc, ils ne mesurent pas les risques éventuellement, mais aussi les avantages et les intérêts qu'on pourrait avoir aussi dans l'éducation à utiliser ces outils-là. Internet, c'est pas que dangereux. Le jeu vidéo, c'est pas que dangereux. Ça développe plein de compétences, plein de capacités. Ça n'isole pas forcément, donc il y a aussi tous ces intérêts, tous ces avantages qu'il y aurait à développer et peut-être à éduquer, comme disait Lorenzo. Je suis assez d'accord avec lui là-dessus.
Emmanuela, toi, dans ta structure, est-ce que tu as pas mal de jeunes qui viennent soit consulter par rapport à cette problématique ou s'interroger sur leur pratique?
Alors, on a de plus en plus, en effet, de demandes, même si ça reste des chiffres qui sont beaucoup moins élevés que les autres comportements, en tout cas addicts. À l'origine de la demande, ce sont plutôt des parents qui sont en panne avec leurs jeunes. Donc, on est souvent dans déjà des problématiques de comportement. Souvent, quand même, on est au-delà de 14 ans, c'est-à-dire que même si on peut avoir quelques enseignants qui s'interrogent sur des enfants qui seraient déjà avec un rapport particulier à l'écran, c'est plutôt nous, en tout cas au XAPA, des débuts d'adolescence. Et souvent, en effet, enfin, moi je rejoins ce que Colline et Lorenzo viennent de dire, c'est que à un moment donné, cet outil, il a été pratique, il a été donné sans forcément avoir posé de cadre, ou en tout cas le cadre, c'était pas une limite de temps, ni d'aller comprendre quelle relation l'enfant avait avec cet outil-là. Et puis, ben, il y a un moment où ça pose problème. Et là, quand ça pose problème, en fait, il s'est passé pas mal d'années. Et pour l'enfant, il a des fois développé un comportement de satisfaction, voire de récompense, c'est-à-dire que, ben, à force de jouer, il a été reconnu, il a été bon, ce qui peut des fois ne pas retrouver dans d'autres contextes. Alors du coup, c'est compliqué pour lui de venir quitter quelque chose qui fait du bien. Il a du mal à entendre le discours des adultes ou des professionnels que ça puisse être du dommageable pour lui, parce que c'est dans et à travers ces outils-là que lui, il se sent reconnu, il se sent bien, il a plus d'angoisse, il n'a pas de stress, il a l'impression d'avoir de l'estime de lui. Donc voilà, c'est un petit peu ce que nous, on rencontre. C'est plus souvent les parents à l'origine de la demande. Pour autant, c'est pas grave que ce soit les parents, puisque nous, on fait du travail aussi familial. Donc, ça permet justement d'aider les parents à retrouver et à peut-être rétablir une communication et du cadre. Et puis, aux jeunes de se rendre compte que peut-être, ben, en prenant un peu de recul, ben oui, peut-être qu'ils pourraient faire autre chose aussi, qu'il y a peut-être d'autres envies, mais qu'ils les questionnent même plus, puisque du coup, voilà, ils sont pris dedans, ils sont un peu le nez dedans. Donc voilà, avec une distorsion du temps sur les écrans, hein, je trouve que Lorenzo, ton exemple était vraiment très très parlant, parce qu'en effet, on peut avoir l'impression de passer peu de temps, et même nous, hein, quand on fait des recherches, je ne sais pas, de vacances où on est sur les écrans, on a l'impression parfois que ça fait 30 minutes qu'on est dessus, et puis bah non, en fait, ça fait 1 heure et demie qu'on est dessus. Donc bah, pour les jeunes, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'accélère et ils ont toujours l'impression qu'ils vont éteindre dans 5 minutes, mais en fait, c'est plus que 5 minutes et lancer une partie, c'est parfois encore se réengager sur plus de temps. Donc voilà. Mais moi, j'interroge aussi beaucoup, non pas la quantité du temps, mais la relation qu'on a avec le comportement qu'on met en place. Voilà.
Il faut penser aussi que les utilisateurs, on pense jeux vidéo, on pense jeunes, mais aujourd'hui, dans le marché du jeu vidéo, il y a 50% du marché qui est mobile. Donc, et sur des jeux qui sont en majeure partie gratuits, comme, je sais pas, Angry Birds ou des petits jeux comme ça, ou Candy Crush. Et ces jeux-là sont en majeure partie joués par des femmes qui ont plus de 35 ans. Ceux qui dépensent le plus d'argent dans ces jeux et qui sont les plus gros joueurs, la plus grosse base utilisateur, c'est les 45-54, 55-64 et 65+, qui dépensent plus que les 18-24 ou les 25-34. Et ces gens-là sont aussi addicts, mais ils ne se rendent pas compte, c'est sur un téléphone, c'est pas vraiment dangereux, c'est un petit jeu qui est gratuit. Cependant, on peut payer pour débloquer des niveaux et tout ça. Et c'est toute la population qui a un téléphone mobile qui doit être sensibilisée à l'usage qu'ils en font, quoi. On a vraiment dépassé juste le jeu vidéo console standard, quoi, qui représente plus que 30% des utilisateurs.
Effectivement, les pratiques ont beaucoup évolué avec les smartphones, c'est clair. Peut-être pour relativiser, être un peu positif pour les parents qui nous écoutent. Tout à l'heure, on disait que les jeux permettent de développer certaines compétences. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes?
La logique, la stratégie, la compétition, la coopération, jouer en ligne. Alors moi qui joue en ligne et qui ai un compagnon qui est un gros gamer, j'en perçois aussi beaucoup d'avantages parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent. Mais tu le disais Lorenzo, en ce moment on est dans une période où on n'a pas la possibilité de créer des liens et de voir nos amis. Moi mon conjoint s'en rend absolument pas compte de ce confinement puisque tous les soirs il retrouve ses amis en fait. Donc c'est aussi, alors certes on peut faire des rencontres, on peut peut-être prendre des risques avec ces rencontres en ligne, mais on peut jouer aussi avec les gens qu'on connaît et qu'on a l'habitude de croiser dans notre quotidien. Et on peut maintenir ces liens-là, travailler sur la coopération, je pense que c'est important. Et là, à mon avis, les développeurs de jeux ont tout intérêt aussi à aller plutôt sur ce genre de choses, plutôt que sur des jeux de tir ou des choses un petit peu un peu basique, ou enfin voilà, des jeux de guerre, des jeux de foot, des jeux de choses très basiques. Je me dis qu'il y a aussi quelque chose à créer de l'ordre de la coopération, de travailler sur des développements de jeux où on travaille l'estime de soi, par exemple. On pourrait créer aussi ce genre de jeu qui permettrait peut-être de développer un peu les ressources des joueurs et de dépasser, voilà, le simple jeu de guerre ou le jeu de tir. Je pense à GTA là dans ma tête ou ce genre de choses qui sont pas très, enfin voilà, qui sont pas très intéressantes peut-être pour développer des habiletés pour les jeunes et pour les moins jeunes pour le coup.
Ok.
Oui, je sais pas. Bah, en fait, il existe des jeux différents. C'est juste qu'ils ont un plus petit budget marketing. On les connaît moins bien, quoi. Les gros jeux qui marchent bien sont des jeux qui marchent parce que les gens les aiment bien. Je sais pas. Les ados jouent à GTA parce qu'ils utilisent ça comme un exutoire. Ça leur permet de sortir la violence qu'ils ont en eux et de par la catharsis, en fait, d'extraire la violence grâce au médium artistique de leur choix. Dans l'époque antique, c'était le théâtre. Aujourd'hui, c'est GTA sur la PlayStation. Mais c'est juste que oui, en fait, il y a un souci avec ça, c'est que les gens qui éditent des jeux vidéo qui ont le marché, en fait, et qui ont les connaissances pour faire des études et tout ça, ont envie de faire du profit. Ils n'ont pas envie que les joueurs se développent personnellement et s'aiment les uns les autres. Et donc, du coup, on voit que ce qui marche le mieux aujourd'hui, bah, c'est les jeux de guerre. C'est, je sais pas, Call of Duty qui est numéro un. Je sais pas, League of Legends, c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu qui est quand même basé sur le combat. Overwatch en ligne, c'est un jeu de tir à la première personne. Il y a le seul jeu non violent qui a un grand succès cette année que je vois, c'est Animal Crossing, quoi. C'est un jeu où on est sur une petite île, on parle avec des animaux, et puis on vend des fruits pour payer son loyer, quoi. Mais c'est un jeu qui est non violent pour le coup, qui a vendu pendant le confinement 20 millions d'unités. Ça s'est super bien vendu, et c'est un jeu qui est pour les 3 ans et plus, tout mignon et tout ça, quoi. Et ce jeu-là était un moment je sais pas, moi je sais que j'y ai joué. Pour le coup, tous les amis autour de moi y ont quasiment tous joué. Il y a des gens qui ont acheté une console rien que pour jouer à ce jeu-là. pour partir en voyage sur une île et faire des petites activités, chasser des papillons et pêcher des poissons. Et c'était un moment sympathique pendant le confinement. Mais je pense qu'en fait, c'est parce qu'il y a le confinement, c'est bien de pouvoir être en ligne avec ses amis et tout ça. Mais je pense que c'est toujours quelque chose qui est. On commence pas forcément à passer du temps sur les jeux vidéo parce que ça permet de se développer socialement. C'est plutôt, on va être pas avoir beaucoup d'activités sociales. On trouve de la récompense dans le jeu et donc du coup on va développer des capacités avec les jeux vidéo plutôt que développer des capacités dans un club de foot ou bien je sais pas moi, au conservatoire à apprendre un instrument de musique ou à se développer dans une association, être bénévole et tout ça, qui sont des choses qui apportent beaucoup plus que jouer à des jeux vidéo. C'est une question de choix de choix ou de du fait de ne pas être exposé à des choses qui sont positives. Je sais pas comment dire.
Oui, d'éducation, d'environnement aussi, certainement, qui joue beaucoup.
Pour moi, ouais, pour moi, il y a un truc social. Enfin, pour moi, le jeu vidéo est pas un divertissement ou une activité quand on est enfant. C'est pas un truc de classe aisée. Pour moi, c'est un truc. Pour moi, il y a quelque chose de, il y a un truc de classe là-dedans. J'ai pas de stats sur les classes socioprofessionnelles des gens qui jouent aux jeux vidéo, mais il y a quelque chose qui me dit que quand on a le temps pour s'occuper de ses enfants, on réfléchit à son éducation et limite, on va l'interdire, il n'y aura pas de télé à la maison, quoi. Et si on n'a pas le temps, ben, on est bien content qu'il puisse être quand même un peu heureux à pouvoir jouer à son jeu vidéo, quoi. Je sais pas, un petit pressentiment comme ça.
Après, je pense que les gens, ils voient aussi enfin, des vrais intérêts et des avantages, qu'on soit adulte ou jeune. Je pense que ça n'empêche pas forcément de faire des choses. En tout cas, ça développe plein d'autres choses. Et c'est top aussi de se dire qu'on peut être un peu quelqu'un d'autre, qu'on peut suivre, voilà, qu'on peut être un héros dans son jeu. Ça fait du bien, comme ça fait du bien des fois de renverser la personne dans GTA, parce que voilà, on a besoin un peu d'expulser ça des fois. Je crois que c'est aussi une culture peut-être de pays. On sait qu'en Asie, les jeux développés sont pas du tout les mêmes qu'en Europe, parce que le public et de joueurs n'est pas le même. Donc je me dis que voilà, il y aurait peut-être des choses aussi à développer au fur et à mesure pour que les gens se tournent davantage peut-être sur des jeux type coopération, type voilà, héros, fantasy, etc. Mais je sais pas du coup, moi je trouve que c'est vraiment, alors moi qui joue depuis toute petite et maintenant adulte, effectivement je m'interroge sur l'éducation de mes enfants par rapport aux jeux vidéo et il n'y a pas de télé, il n'y a pas tout ça, mais par contre, je sais que ce sera quelque chose d'important dans son éducation parce que je suis convaincue que ça développe plein d'autres choses. Alors, faut développer aussi ces choses-là ailleurs que sur le jeu vidéo. Mais moi, j'ai un compagnon qui est geek, hein, et je reviens sur ce que disait Manuela, la notion du temps. On a l'impression que c'est le seul critère parfois pour définir l'addiction. Ça fait très peur. Mon jeune passe énormément de temps sur les écrans. Il est addict. Bah, il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a ce qu'on en fait derrière et il y a ce qu'on fait à l'extérieur. Mon conjoint, effectivement, a une vie assez particulière par rapport aux jeux vidéo, mais à côté de ça, il travaille, il fait ses obligations, il fait du sport, il sort, etc. Donc, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à allier aussi le jeu avec leur vie d'adultes ou en tout cas leurs obligations au quotidien. Mais effectivement, encore faut-il être bien au clair sur les moyens de limiter les risques pour le coup. Et ça, à mon avis, c'est l'éducation et c'est les parents qui doivent gérer ça assez vite et puis s'intéresser aussi à ce que font leurs jeunes plutôt que de trouver quelque chose de tout de suite négatif. Bah, c'est de jouer avec les jeunes, c'est de réfléchir ensemble sur quel jeu on va acheter à notre jeune pour aussi faire en sorte de développer certaines habiletés pour le coup. Effectivement, jouer à Fortnite, voilà, ça peut être intéressant, mais ça développe pas grand-chose à part voilà, la compétition et s'amuser sur le chat avec ses copains. Mais il y a des jeux qui développent plus de choses, donc c'est aussi aux parents de s'intéresser, de chercher des infos là-dessus et de faire respecter aussi le PEGI, notamment, pour essayer aussi de suivre un petit peu mieux les jeunes dans la manière dont ils peuvent utiliser les jeux vidéo, je pense. Parce que je trouve que c'est parfois un peu dommage d'avoir un discours assez négatif sur ces outils-là, alors qu'il pourrait être aussi un bon outil d'éducation et de partage avec la famille et notamment entre parents et jeunes pour le coup.
Tu disais Peggy, c'est le système de classification par âge, 3 ans et plus, 16 ans et plus. Et typiquement GTA, par exemple, qui est 18 ans et plus, mais qui est principalement joué par des collégiens, lycéens qui n'ont pas 18 ans.
Et ça, par exemple, c'est des choses qu'il faudrait un petit peu plus faire appliquer ou en tout cas communiquer auprès des parents. Pour le coup, quand on dit que c'est pas recommandé au moins de 18 ans, bah oui, il y a de la pornographie, il y a de la violence, etc. Donc, faut aussi que les parents s'en intéressent un petit peu plus que bah oui, mais c'est ça qu'il veut, donc je vais lui acheter ça pour lui faire plaisir. Bah non, quand on a 12 ans, on joue pas à GTA. On peut trouver plein d'autres jeux et plein d'autres choses. Minecraft, c'est très sympa, ça développe plein de choses aussi. Enfin voilà, il y a tellement de jeux qui existent. Encore faut-il les connaître effectivement et aller chercher un petit peu les infos pour le coup là-dessus, quoi.
Ouais, j'avais fait un reportage sur. Il y avait un lycée près de Rennes, je sais plus quelle ville, qui utilisait les jeux vidéo, qui utilisait Minecraft pour faire des cours de civilisation grecque et romaine. Où il y a un mode dans Minecraft qui est fait pour l'éducation, où on peut pas se faire de mal. Le seul truc qu'on peut se faire, c'est se balancer des boules de neige. Et donc, du coup, ils construisaient des bâtiments, des répliques à taille, à échelle 1 sur 1. À taille réelle, des bâtiments antiques pour les mettre un peu dans l'univers et leur faire réaliser à quel point, je sais pas, c'est cool de voir un grand bâtiment de l'époque et tout ça. Et faire comprendre aussi, avec les différents blocs, un peu la chimie et tout ça, les différents composants. Et ils utilisaient aussi un jeu qui s'appelle Kerbal Space Program, qui est un jeu où on fabrique une fusée. Et c'est un jeu qui utilise beaucoup la physique et c'est utilisé plus pour fin collège, début lycée. Afin de comprendre un peu comment fonctionne la gravité, comment fonctionnent les lois de la physique. Et c'est un jeu où si on comprend pas ça, la fusée décollera jamais, quoi. Donc le but du jeu, c'est faire décoller une fusée, la faire atterrir sur la Lune et puis la ramener sur Terre, quelque chose comme ça. Et il y a des jeux qui sont fantastiques qui permettent d'apprendre des choses et tout ça, hein, bien sûr. Ouais, si je continue à jouer, c'est qu'il y a un intérêt artistique derrière. Clairement, c'est pas. Il y a des jeux qui racontent des histoires formidables, qui sont bien plus, enfin, qui évoquent des sujets sociaux, culturels, politiques, super intéressants. Ça existe, ça. Il y a toute une scène indépendante du jeu vidéo. C'est juste qu'on parle beaucoup de jeux grand public, qui sont les jeux les plus connus, parce que bah, ça parle, c'est plus sympa de parler de jeux vidéo, enfin de sujets qui font un peu peur ou qui sont un peu qui peuvent inquiéter les parents et tout ça, plutôt que faire un sujet sur le développement artistique des enfants grâce aux jeux vidéo. C'est plus rare quoi, parce que de quel jeu on parlerait? Faudrait se renseigner et tout quoi.
Après cette parenthèse qui était très dense sur les jeux vidéo ou jeux en réseau, on peut peut-être éventuellement parler un petit peu de tout ce qui est cyberdépendance, l'addiction aux nouvelles technologies, que ce soit aux réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous avez quand même beaucoup de demandes? Vous voyez beaucoup de jeunes concernés par cette problématique, Manuela ou Colline?
Nous, non, on voit pas de, on n'a pas de demande sur ces sujets-là, ce qui ne veut pas dire que forcément il n'y en a pas, mais en tout cas, ce n'est pas une porte d'entrée pour venir dans nos structures, dans notre structure. Et puis je pense qu'en fait, bien souvent, ça pose plus problème à l'entourage qu'aux gens eux-mêmes. Et que du coup, il n'y a pas de mobilisation pour autant. Voilà. Et encore une fois, hein, moi je rejoins que ce n'est pas une question de temps, c'est vraiment à quoi ça sert. Les jeunes sont en effet beaucoup sur leur téléphone, mais leur téléphone a plein de fonctions. Ils savent vraiment utiliser toutes les capacités. Alors que moi, je veux dire très clairement, oui, je téléphone avec, je prends quelques photos, mais j'utilise peut-être même pas un dixième de ce qu'il peut faire parce que c'est pas dans ma culture, c'est pas dans peut-être mes plaisirs. Donc du coup, je vais avoir l'impression qu'ils l'utilisent peut-être beaucoup plus que moi, mais ils font aussi beaucoup plus de choses et que du coup, ramenés à l'utilisation, ils sont pas tant que ça dans un mésusage ou dans quelque chose qui serait pas adapté, quoi. loin de là, quoi.
Mais le fait qu'ils soient équipés quand même de plus en plus jeunes, est-ce que ça ne va pas développer un usage excessif davantage?
Sans doute que si, sans doute que. Mais est-ce que ce sera pour autant un problème? Je ne suis pas sûre. Donc, tout est une question aussi de bien-être. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà vulnérable, qui manque d'estime de lui, qui a une difficulté à gérer ses émotions, qui a du mal à être en socialisation, utilisera certainement tous ces outils-là d'une manière palliative. Mais quelqu'un qui va bien, je ne suis pas sûre que même en étant beaucoup dessus, sera dans quelque chose qui sera dommageable, quoi. Donc, c'est encore une fois, c'est l'éducation, c'est le bien-être, c'est plein d'autres facteurs, quoi. Ça ne se résume pas à quoi. Tout est une question de relation. La nourriture pourrait être potentiellement aussi un problème d'addiction, mais c'est bien, encore une fois, non pas... on a tous besoin de manger, c'est la relation qu'on va créer avec la nourriture. Si on mange en se disant que ça nous fait du bien, que ça nous permet d'oublier nos problèmes, qu'on se sent mieux, ou si on mange parce que voilà, on en a besoin, c'est un plaisir, on partage, mais qu'on n'est pas dans une réparation, il ne se produit pas la même chose. Donc, encore une fois, les écrans ou les produits, ou c'est aussi la relation et qu'est-ce qui l'apporte à la personne, à l'adulte, au jeune, quoi.
Et puis du coup, pour compléter ce que tu dis, Manuela, mais on est aussi dans une société qui nous rend acheteurs, qui nous rend dépendants à plein de choses. Tout doit aller vite, on doit répondre vite aux choses, on doit être satisfait rapidement. Donc finalement, c'est juste normal ce qu'on peut voir là avec les réseaux sociaux ou l'usage du téléphone de plus en plus jeune. Faut peut-être aussi renforcer effectivement les ressources des uns et des autres pour faire face à ça, parce qu'on est dans cette société-là qui nous pousse à tout le temps montrer notre meilleur jour. On n'a pas le droit d'aller mal. Faut tout le temps, voilà, montrer cette façade-là. Donc, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est encore plus compliqué pour les jeunes aussi de trouver leur place dans ce genre de société où ils nous le disent souvent, ils ont bien perçu les contradictions et les incohérences. Sur plein de choses, ils n'ont pas le droit de consommer, mais finalement, ils y ont accès très facilement. Donc, ce n'est pas un cadre qui est rassurant. Et là, pour le coup, c'est les adultes qui doivent être garants de ce cadre-là. Donc, oui, il y a sûrement plein de dérives. Oui, peut-être que les jeunes ont des téléphones trop tôt. Mais à un moment donné, il faut... faut aussi prendre ça voilà, dans l'autre sens. Nous, on a beaucoup de demandes de la part des établissements scolaires, par exemple, pour sensibiliser, informer, travailler sur le harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Alors, bien sûr que c'est important d'en parler aux jeunes, mais je pense qu'on ne voit pas tout si on parle que aux jeunes de ça. L'important, c'est de parler aussi aux parents, aux adultes, voilà, aux encadrants en général. Et puis, c'est de sortir un petit peu de ça. C'est comment on fait face finalement aux influences et aux pressions, comment on arrive à dire non et voilà, comment on renforce nos compétences à aller bien et à se dire qu'on a le droit d'aller bien. Et je trouve que ça, c'est révélateur de notre société en ce moment. On a du mal à prendre le temps et à réfléchir sur soi, et à se dire que des fois ça va pas, et que c'est normal que ça n'aille pas, et qu'on nous laisse du temps aussi pour aller un petit peu mieux. Donc, on crée une société de consommateurs et de gens addicts, je pense, au fur et à mesure, selon moi.
On va faire une petite pause musicale, donc je vous propose de nous retrouver juste après la musique.
Got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah.
ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister wrote me a letter. My baby sister wrote me a letter.
De retour sur notre radio pour l'instant jeune. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Nous allons continuer d'en apprendre davantage sur les addictions avec notamment Manuela Duxapa et Pauline Delampa pour nous parler un petit peu de différentes conduites addictives et notamment on peut peut-être commencer par parler du cannabis. C'est la drogue illicite la plus consommée. Il y a environ 1 million de personnes en France qui en consomment régulièrement. C'est aussi le plus expérimenté chez les jeunes après l'alcool et le tabac. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes à venir dans vos structures pour cette problématique, Manuela ou Colline, vous pouvez nous...
Il y en a. Si on parle de l'activité du XAPA, nous, à peu près, on reçoit 1989 usagers sur l'année 2018, mais sont concernés pour le cannabis que 300 à peu près usagers. Donc, ça reste quand même une petite partie. La plus grande partie reste les comportements en lien avec les consommations d'alcool. Et le cannabis, très clairement, c'est souvent en plus secondaire d'une autre problématique de consommation. Voilà un petit peu pour nous les portes d'entrée, quoi.
C'est-à-dire que les jeunes, le public qui vient vous voir au XAPA pour cette problématique, souvent a une autre addiction à côté.
Oui, souvent, ouais.
Qui est par exemple l'alcool?
Ça peut être l'alcool, ça peut être l'héroïne, ça peut être voilà. Je pense qu'il y a des consommateurs de cannabis qui sont simplement des consommateurs de cannabis, mais nous on les rencontre pas spécialement au XAPA.
Ok. Et quel type d'accompagnement, quel type d'aide ils peuvent trouver au XAPA?
Ils vont avoir un accompagnement médical, psychologique, social, éducatif. L'idée est vraiment non pas de focaliser sur l'addiction, mais vraiment aussi de comprendre quelle fonction ça a, quelle place ça prend dans leur vie. Il y a des jeunes qui vont très clairement nous dire « Mais moi, heureusement que je consomme et que je fume du cannabis le matin, sinon je pense que je casserai la gueule un peu à tout le monde. » Donc, il est bien sur une gestion de sa colère à travers un produit. D'autres, ça va être de se donner de l'énergie. D'autres, ça va être de ne pas entendre leurs problèmes familiaux. Donc, en fait, c'est toujours un symptôme d'autre chose. L'idée est vraiment d'aller comprendre du coup… OK, il vient avec cette problématique-là. Elle nous parle de quoi ? Nous, on est convaincus que l'addiction est simplement un symptôme. Donc, on peut travailler sur les symptômes, mais il va falloir aller quand même chercher la cause. Donc là, c'est des prises en charge qui sont pluriprofessionnelles et qui sont vraiment dans la globalité de l'humain.
Oui, la consommation d'un produit, de toute façon, n'a pas forcément les mêmes conséquences pour un individu ou pour un autre en fonction de son environnement. Parce qu'au départ, ça commence souvent par une recherche de plaisir, de réconfort pour apaiser un malaise interne, une souffrance. Et puis après, effectivement, ça peut devenir problématique. Les auditeurs qui ont besoin d'être accompagnés, quelle démarche pour bénéficier des services du XAPA? C'est à la fois les personnes concernées directement par l'addiction, mais aussi l'environnement, la famille. que tu peux nous expliquer les démarches à effectuer? Et sur le département, est-ce qu'il n'y a que Laval? Est-ce qu'il y a des relais sur différents lieux?
Alors, au XAPA, tout le monde peut être à l'origine d'une prise de contact. Ça peut être un professionnel pour un jeune. On reçoit donc les gens concernés, l'entourage, les familles. On peut être accompagné par un collègue, par un copain, par ses parents. En fait, ce qu'il faut, c'est faciliter la rencontre, permettre la rencontre. Donc, si quelqu'un n'est pas en capacité de prendre le rendez-vous lui-même, eh ben, faut le faire à sa place. Et s'il veut être accompagné, ben, faut l'accompagner. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de permettre cette rencontre. Elle peut se faire sur la structure, mais on fait aussi des interventions délocalisées, c'est-à-dire sur les établissements scolaires. Ça peut se faire. Si un jeune, il est pas en capacité de venir, mais il veut bien rencontrer quelqu'un du XAPA, c'est possible aussi. Et puis on a donc plusieurs sites: Laval, Château-Gontier, Mayenne. Il y a aussi des permanences à Segré, à Évron. L'idée est de se rendre vraiment accessible sur les territoires.
Okay. Donc, c'est un service gratuit.
C'est un service gratuit. On n'a pas besoin d'avancer. On peut aussi, on peut recevoir des parents, même si un jeune n'a pas envie de venir. On peut recevoir aussi un jeune et qui n'a pas envie que ses parents soient au courant. Voilà, on a vraiment moult possibilités. On va permettre la rencontre.
D'accord. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est un accueil anonyme.
Ça peut être anonyme.
Okay. Même s'il est mineur, il peut venir sans que…
Oui, il peut venir.
Et c'est un accompagnement sur la durée?
Alors, il n'y a pas de délai, c'est-à-dire que c'est vraiment de travailler à accompagner la personne vers ce qu'elle a besoin et en fonction de ses capacités. S'il faut 4-5 rendez-vous, il y en aura 4-5. S'il en faut plus, ben, il y en aura plus. On n'est pas limité dans le temps.
Vous avez aussi des gens qui consultent par rapport à la consommation de médicaments, anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs, enfin, des gens qui sont devenus addicts.
On en a, oui, qui peuvent être orientés via les médecins généralistes, par exemple, ou qui se disent, voilà, là, ça fait trop longtemps que vous êtes sous ce traitement-là, on voit bien que vous n'arrivez pas à vous en passer, il y a le XAPA qui peut être une structure qui vous accompagne, en tout cas, dans cette problématique-là. Et puis parfois c'est au détour de quelqu'un qui vient nous voir pour un sevrage tabac et on se rend compte que en fait ça fait des années et des années qu'il est sous traitement, que ça a plus vraiment il y a un phénomène de tolérance, donc une accoutumance, et du coup il n'y a plus vraiment de satisfaction, mais il y a toujours ce traitement qui est pris. Donc c'est aussi d'accompagner à peut-être diminuer, à voir refaire une évaluation de ce qu'il aurait besoin. Et c'est vrai qu'il y a des médicaments qui ont malheureusement des accoutumances, des dépendances, et il y en a d'autres qui seront moins dans cette pharmacologie, donc c'est mieux de pouvoir réévaluer ça médicalement.
Okay. Donc vous êtes plus dans le soin et l'accompagnement. Toi, Colline, au niveau de l'emploi, vous êtes plus dans la prévention, c'est cela?
Oui, alors concernant le cannabis, on rencontre beaucoup de consommateurs puisqu'on organise pour le tribunal les compositions pénales, donc les alternatives aux poursuites, dans le cadre de la loi de 1970, donc qui interdit, qui pénalise le cannabis. Donc on les rencontre dans un cadre contraint, ces consommateurs. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse cette contrainte. Et je pense que y a plein de gens, des jeunes ou des moins jeunes, puisqu'on fait les stages pour les mineurs, mais aussi pour les majeurs, qui sont restés encore sur une représentation du cannabis qui serait une drogue douce. Ce produit, il a évolué depuis plusieurs années maintenant. L'image de la drogue douce, d'un cannabis qui ne rendait pas trop dépendant, c'est plus vraiment le cas. Maintenant, il est concentré en THC, propriété psychoactive du cannabis, et les concentrations sont assez importantes, et c'est ça aussi qui vient accrocher les jeunes. C'est pour ça que les jeunes ont peut-être de plus en plus de difficultés à gérer ce produit-là, contrairement aux adultes, parce que le produit n'a rien à voir avec le cannabis des années 70 ou 80. Donc je pense que ce qui est vraiment important, c'est aussi de désacraliser ou en tout cas de discuter avec les consommateurs et les non-consommateurs d'ailleurs de c'est quoi le cannabis aujourd'hui, de ses fonctions, ce que ça apporte et de ce que ça n'apporte pas. Enfin, en tout cas, dans l'imaginaire, les gens pensent plein de choses du cannabis. Dans la réalité, ce n'est pas forcément toujours le cas. Ou en tout cas, au bout d'un moment d'une consommation régulière, les intérêts à consommer disparaissent un petit peu. Et finalement, c'est en prenant des exemples très concrets de situations de consommation que les gens vont commencer à se dire, ah oui, tiens, finalement, moi qui valorise ou en tout cas qui a une image assez positive du cannabis, même pour moi, elle peut commencer peut-être à m'embêter un petit peu dans mon quotidien. Ou finalement, je n'avais pas fait de lien avec ma consommation de cannabis, mais là, dans ce que vous me dites, je me rends compte qu'il peut avoir un lien sur des problèmes de sommeil, par exemple, voilà, des choses un peu comme ça. Donc, le pas entre aller consulter parce qu'on pense qu'on a une difficulté avec le cannabis, à mon avis, il n'est pas toujours simple à faire. Et surtout, en amont, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, nous, notre travail, c'est un petit peu ça, c'est d'essayer de déconstruire un peu les idées reçues sur ce produit-là et effectivement de se dire que qu'il a évolué et qu'il est plus dangereux qu'il y a quelques années. On est très critique aussi avec la loi. Alors, les consommateurs qui se retrouvent dans nos stages le sont particulièrement et c'est normal. Il y a une incohérence sur ce cadre et ça, les gens et les jeunes le comprennent pas. Tu le disais, hein, Laurence, c'est la drogue illicite la plus consommée. On a l'une des lois les plus dures, hein, d'Europe en France sur le cannabis, et pourtant on est l'un des plus gros consommateurs aussi d'Europe de cannabis. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau de ce cadre-là. Pourtant, la loi s'applique très durement, notamment en Mayenne, mais pas que, sur les consommateurs. Donc, les consommateurs comprennent pas toujours en fait l'intérêt de cette loi-là, la plus-value pour eux. Ils minimisent beaucoup les risques du cannabis. Par rapport à l'alcool, par exemple. Les consommateurs de cannabis, souvent pensent que l'alcool est bien plus dangereux, etc. Ils n'ont pas tout tort, mais ils comprennent pas en fait pourquoi c'est interdit. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce travail-là aussi de discussion et de vrais échanges, de vrais débats sur les questions du cannabis pour que les gens aussi fassent un petit peu évoluer leurs idées reçues et leurs représentations. Parce que le cannabis n'a rien à voir avec celui qui était consommé il y a quelques années, pour le coup.
Et donc, en ce qui concerne la dépénalisation, puisqu'il en est quand même beaucoup question, est-ce que vous avez des données un peu chiffrées de pays où le cannabis est déjà dépénalisé?
Alors ça avance pas mal du coup à l'international. Peut-être le meilleur exemple, enfin en tout cas ce qui se rapproche peut-être le plus de la France, c'est le Canada, qui a légalisé le cannabis en 2017. En fait, c'est intéressant de travailler sur ce rapport à la loi et ce qui pourrait fonctionner ou pas. Il y a plein de rapports qui montrent que légaliser, ça rapporterait de l'argent à l'État. Donc, il y a toutes ces questions économiques là qui viennent là-dessus. Je pense que c'est une question qui est très complexe. Alors, nous, à l'ANPA, on s'est positionné hein, pour changer cette loi-là et depuis plusieurs années, tout simplement parce que la loi, elle n'est pas efficace. On n'a pas empêché ou retardé la consommation de cannabis ou d'autres drogues illicites. Donc, c'est juste d'être pragmatique et c'est de se dire que ça ne fonctionne pas. Donc, faut peut-être essayer autre chose pour prendre en charge correctement, pour éduquer, informer correctement aussi les consommateurs, les intérêts ou en tout cas ceux qui sont pour une légalisation, c'est notamment pour réguler le marché. C'est ce qui se passe au Canada. Ils ont un cannabis qui est légal et qui est géré par l'État et des sociétés qui ont des accréditations. Donc, c'est hyper complexe en fait comme thématique. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis 1970, ça ne marche pas la loi. Il faut peut-être créer un vrai débat. Alors là, depuis 2020, on lance une expérimentation du cannabis thérapeutique en France, qui a été un peu reportée avec la crise sanitaire. Sont des choses qui feront sûrement avancer le débat, mais en France, on a toujours un petit peu de mal, on est toujours un petit peu en retard, voilà, sur ce genre de choses. Sur les autres pays, ce qu'on voit, c'est pas forcément une augmentation à long terme de la consommation. Il peut y avoir un pic au départ sur les premiers mois de la légalisation, et puis après, c'est des choses qui se tassent un petit peu, mais ça dépend des exemples. Si on parle des États-Unis, il y a plein de choses qui sont mal faites aux États-Unis autour de la légalisation et du cannabis récréatif, donc c'est peut-être pas forcément le bon exemple à prendre pour le coup.
Est-ce que dans vos structures, vous rencontrez des jeunes qui consomment est-ce que les jeunes consomment de plus en plus tôt? Est-ce qu'ils consomment de plus en plus de cannabis? Quel constat vous avez par rapport à...
Les statistiques officielles montrent que les jeunes consomment un petit peu moins de cannabis. C'est plutôt à la baisse, comme l'alcool et le tabac d'ailleurs, hein, elles sont plutôt à la baisse. Après, je sais pas. Je pense qu'en tout cas, en termes d'image, le cannabis est vu comme un produit qui est plus fun, plus attractif par rapport au tabac, par exemple. Le tabac, les jeunes très bien compris que c'était dangereux, toxique, que ça coûtait cher, etc. Le cannabis, il a une image peut-être plus valorisée, plus positive. Après, j'ai pas de statistiques sur le fait que les jeunes consomment forcément plus tôt. J'en suis pas persuadée. En tout cas, les statistiques sont plutôt à la baisse, mais avec une valorisation, une glorification peut-être aussi de ce produit-là, qui est toujours vu comme une drogue douce par rapport à d'autres produits, et notamment l'alcool.
Okay, merci pour ces petites précisions. La fin de l'émission va approcher, donc si les auditeurs ont besoin de rencontrer des professionnels par rapport à une addiction quelle qu'elle soit, donc celle dont on vient de parler ou d'autres dont on n'a pas eu le temps d'évoquer, les démarches à suivre pour rencontrer vos structures.
En fait, ils peuvent téléphoner au XAPA 53 en fonction de leur lieu géographique. Ils peuvent aller sur Château-Gontier, Mayenne, Laval. Il y a une permanence, encore une fois, à Évron, à Segré, donc ça peut être plus pratique pour eux. Je voulais juste rajouter, moi, que le XAPA, il a aussi un P, et le P, c'est prévention. Et dans notre travail de prévention, on est plutôt sur accompagner les professionnels à repérer et à repérer de façon précoce, c'est-à-dire pas simplement quand ils consomment, mais aussi quand ils ont du mal-être, parce qu'on sait que le mal-être sera à l'origine évidemment de trouver des alternatives pour se sentir bien, d'où aussi les produits, les comportements, etc. Donc nous, on est vraiment dans cette idée de repérage précoce et d'intervention précoce, c'est-à-dire avant même qu'il y ait des consommations, avant même qu'il y ait des dégâts, c'est de pouvoir être présent, faire connaître le XAPA, peut-être dédramatiser ou en tout cas se représenter quel type de professionnel exerce dans un XAPA. Parce que passer la porte, je pense, c'est loin d'être simple. Donc, plus on sera dans le aller vers, je pense, et plus on permettra certainement d'avoir des rencontres finalement beaucoup plus tôt et d'être peut-être moins sur le soin et le soin qui parfois est difficile, quoi. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Et après, le XAPA, on a un site internet aussi, donc on peut évidemment taper XAPA et avoir toutes les coordonnées, toutes les infos pour pouvoir venir. Alors, CSAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addiction.
Et tu parlais des équipes pluridisciplinaires, juste préciser, donc infirmières, psychologues, enfin, quel type de professionnels les gens peuvent rencontrer chez vous, Manuela?
Donc, on a des médecins, médecins addictologues, on a une psychiatre, on a du coup des infirmiers, des psychologues, des éducateurs spécialisés, et puis les agents du coup administratifs, secrétaires, etc. Donc, pour une rencontre, en fait, il est possible d'être vu par un infirmier qui va faire une évaluation et ensuite, du coup, les psychologues, les médecins en fonction des besoins. Voilà.
Ok, et toujours ce rendez-vous, y compris pour la consultation jeune consommateur qu'on appelle TJC.
Oui, c'est sur rendez-vous parce qu'aujourd'hui on a quand même une file active qui est relativement importante et que c'est compliqué de pas avoir de rendez-vous. Pour autant, on a des permanences qui nous permettent d'avoir un temps disponible pour intervenir de façon assez rapide auprès des jeunes. Donc le mardi matin est bloqué pour pouvoir intervenir et avoir du temps pour les jeunes. Et puis on essaye. En tous les cas, pour ce public-là, d'être relativement réactif.
Et pour l'EMPA, peut-être Colline nous rappelait juste le contact.
Oui, alors c'est plutôt les structures hein, qui nous contactent, nous, puisqu'on travaille en amont, on ne fait pas de suivi individuel. Donc, il ne faut pas hésiter, on est sur la plaquette Addictologie 53 à nous contacter et puis on travaille à la carte avec les établissements pour construire quelque chose qui leur convienne. On ne fait pas de la prestation, donc n'hésitez pas à contacter. Alors maintenant, Association Addiction France pour 2021.
C'est cela, on a bien tenu le changement. Donc, l'émission touche à sa fin. Si les auditeurs ont des questions, hein, j'aurai peu de temps pour rappeler les adresses des différents sites Internet, mais ils peuvent se rapprocher de toutes les structures information jeunesse qui sont sur le département. Et puis, il y a le site du CIDJ, santéaddiction.fr, qui a été mis en place, où là, il y a pas mal de ressources et d'informations. Merci à tous les trois pour votre participation et c'est la dernière émission donc pour cette année 2020. On espère que vous avez passé une bonne soirée à notre écoute et que nous nous retrouverons donc début janvier pour une nouvelle émission. On peut peut-être en profiter pour vous souhaiter de bonnes fêtes à tous.
Bonne soirée.
Merci, bonne fête à tous. Au revoir.
Merci beaucoup. Merci. You're making